Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgaard pour vous présenter notre podcast Escale. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux journalistes, Florence Hainaut et Myriam Leroy, qui vont nous raconter une histoire de cyberharcèlement. Elles étaient de passage à Genève à la fin de l'année dernière, où elles ont rencontré notre collègue Alexandre Carrette et présenté ainsi leur documentaire « #salepute ».
Quand le sujet de la violence en ligne contre les femmes est abordé, c'est souvent sous l'angle du fait divers. On dit que c'est la faute à pas de chance, que la technologie est devenue folle, ou que, oui mais bon, la victime n'avait quand même pas sa langue en poche. On croit que ça n'arrive qu'aux célébrités, que c'est le revers de la médaille. On part du principe que les hommes encaissent pareil. On ne voit pas le schéma, les redondances de ces cyberviolences.
On ne voit pas que toutes ces histoires disent en réalité la même chose. Elles disent le mépris des femmes. Elles montrent que cette haine est si banalisée qu'on ne prend même pas la peine d'en parler. Alors nous voilà, femmes, journalistes, qui avons appris, comme tant d'autres, à vivre avec le harcèlement, mais qui refusons de l'accepter pour autant.
Au lendemain de la Journée internationale des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, quoi de plus approprié que de se pencher sur la cyberviolence ? Les femmes sont le groupe social le plus à même d'être harcelées sur Internet. Des derniers chiffres montrent que la prévalence de violences exercées par des moyens numériques touche 73% des femmes dans le monde. Le harcèlement est donc un mécanisme de silenciation qui a trouvé un nouveau canal pour s'exprimer. Florence Hainaut et Myriam Leroy sont journalistes belges. Elles ont toutes deux été victimes de cyberharcèlement. Elles ont décidé de raconter leur histoire, mais aussi celle d'autres femmes, journalistes, politiques, blogueuses, qui ont dû faire face à des campagnes de haine d'une violence ahurissante sur Internet, plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
Tant que tu t'es pas fait violer, ça compte pas. Tania est une putain et une ordure.
Solltest dich wieder dahin
tu devrais retourner dans la cave d'où tu viens et mourir.
Je souris quant à ta lapidation en place publique quand ils auront pris le pouvoir.
Si je te croise un jour en rue, ce sera ton dernier jour à vivre.
Vous devriez vous-même être violée par des Nord-Africains pour savoir de quoi vous parlez.
Elle aime bien les grosses bites, virgule, salope.
Tu l'ouvriras moins grand, ta gueule, une fois que t'auras ma bite dedans.
Il y a moyen de t'enculer à sec avec du gravier et du harissa, Nadia Dame, # je suis Charlie, # en terrasse avec la calache, # ma femme et mon fou.
Voici un échantillonnage d'insultes sexistes, extrait du documentaire #salepute. Il recueille le témoignage d'une dizaine de femmes, dont la journaliste Nadia Dam, la députée allemande écologiste Renate Künast, ou encore la survivante autrichienne Natascha Kampusch, toutes victimes d'insultes misogynes, de menaces de viol, de mort sur les réseaux. De la Finlande à la Suisse, en passant par l'Autriche, la France et l'Allemagne, le film se concentre sur les conséquences personnelles et sociétales de la misogynie en ligne et explore les réponses individuelles et collectives à ces abus. Avec Alexandre Carrette, Florence Hainaut et Myriam Leroy revient sur leur propre expérience qui les a poussées à faire ce documentaire.
Quand ça nous est tombé dessus, à Myriam et moi, ça a commencé au tout début de nos carrières. Et on entendait souvent que ça n'arrivait qu'à nous, c'était le revers de la médaille. Et puis, un jour, on a un peu comparé nos expériences. On s'est dit que si ça n'arrivait qu'à Myriam et ça n'arrivait qu'à moi, ben déjà, c'est que ça n'arrivait pas qu'à l'une ou à l'autre. Et puis, voilà, on a décidé un jour de porter plainte contre un harceleur commun. Et puis, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose de ça. Et on a voulu donner, en fait, une grille de lecture aux femmes, non seulement aux femmes ciblées par les cyberviolences via Internet, mais aussi à toutes celles qui observent cette violence pour leur expliquer de quoi il s'agit. Exactement, parce que non, ça n'est pas le revers de la médaille, non, ce n'est pas le prix à payer, non, ce n'est pas normal. Et donc voilà, on a voulu faire quelque chose d'utile de nos stigmates et ça a l'air de pas mal fonctionner.
Myriam Leroy, vous avez écrit un roman largement autobiographique sur votre expérience du cyberharcèlement, Les yeux rouges aux éditions du Seuil, qui évoque l'engrenage infernal avec un certain Denis qui au départ tente d'entrer en contact avec une jeune journaliste et qui ne la lâchera plus jusqu'à la harceler. C'est très insidieux car au départ, ce Denis paraît inoffensif, il explique même qu'il est père de famille.
Ouais, bah alors je préfère dire que c'est un roman auto-fictionnel qu'autobiographique parce que c'est une synonymisation d'une, enfin en réalité de plusieurs situations vécues. Il y a toujours cette tendance à voir l'agresseur comme un marginal, comme un fou. C'est la même chose pour les accusations, les histoires de violences sexuelles, hein, les violeurs dans l'imaginaire collectif. C'est toujours des dingues avec des cagoules dans des parkings tard le soir. Or, on le sait, enfin les endroits les plus dangereux pour les femmes, c'est avant tout leur domicile, que ce soit pour les violences sexuelles ou pour les violences sexistes en général et pour les harcèlements à caractère misogyne aussi. La plupart des harceleurs, en tout cas en ce qui nous concerne, Florence et moi, le font à visage découvert, sans essuyer leurs traces. Et c'est très contre-intuitif, mais ils sont des notables un peu dans la société. Ils sont installés, ils ont des bons métiers, ils ont un bon réseau. Donc, ce n'est pas une affaire de marginaux, c'est une affaire de monsieur tout le monde. Parfois, de temps en temps, de madame tout le monde aussi, mais surtout de monsieur tout le monde.
Alors, ce qui est frappant lorsqu'on écoute les témoignages dans votre documentaire, hein, c'est la violence des propos des harceleurs, quasiment toujours liés au physique, aux menaces de viol et de mort. Une intervenante fait d'ailleurs le lien avec la culture du viol, Florence Hainaut.
Alors oui, il y a un lien entre la culture du viol parce que la réponse quasi systématique qui est faite aux femmes qui se plaignent des violences subies via Internet, c'est qu'elles l'ont peut-être un peu cherché, qu'elles s'exposent beaucoup sur Internet, qu'elles ont tenu des propos clivants, etc., etc., etc. Et c'est ça la culture du viol, c'est la remise en question de la parole de la victime, voir si elle n'est pas un petit peu responsable. Et puis, comme Lorraine Bastide, parce que c'est elle dans le film qui en parle, elle dit la culture du viol, ça va, c'est aussi un continuum, ça va de la petite remarque, le petit commentaire en rue jusqu'au viol, eh ben, c'est la même chose pour les cyberviolences. Ça va du petit commentaire un peu méprisant sous une photo ou un post au raid ultra-violent. Et c'est le cas de plusieurs femmes, mais pas toutes, mais qui s'expriment dans le film.
Alors, les femmes qui sont harcelées dans votre documentaire, hein, ce sont des femmes qui ont un certain pouvoir ou de l'influence, des femmes qui n'ont pas peur de parler, d'affirmer leur avis. Et du coup, on se dit qu'elles sont mieux armées pour supporter toutes ces attaques. Et pourtant, le cyberharcèlement a un impact très important sur les victimes, aussi bien, on le voit dans votre documentaire, hein, sur le plan psychologique que sur la suite de la carrière des victimes, Florence Hainaut.
Ça a des effets extrêmement concrets sur la place qu'on a envie de prendre dans l'espace public après, étant donné qu'on connaît le prix. En tout cas, on nous a fait payer un prix. Et donc, il y a en effet des jeunes femmes qui ont du mal à s'engager, qui ont peur de s'engager en politique ou dans les médias, celles qui quittent les médias et qui quittent la politique. Et en règle générale, une extrême prudence de toutes celles qui ont vécu des violences à s'exprimer. Et c'est le cas pour Myriam et moi. Alors, je sais que dire ça dans une interview autour d'un documentaire qui est largement diffusé, ça a l'air un peu contradictoire, mais il se fait que Myriam et moi, on a quitté Twitter, on a quitté Facebook et on est ultra prudente quand on s'exprime. D'ailleurs, tous nos harceleurs et tous nos potentiels harceleurs ont été extrêmement présents avec nous en salle de montage quand on a construit ce film, parce qu'on l'a vraiment construit en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous reprocher, comment bien dire les choses, sur quoi on va pouvoir nous attaquer. Et donc, voilà, le harcèlement continue même quand il ne se passe pas. On sait ce qu'on risque et on fait extrêmement attention, avec des conséquences évidemment énormes sur la place des femmes dans l'espace public qui est Internet et dans le débat politique, dans le débat démocratique. Et si on se passe de la moitié de l'humanité dans le débat démocratique, en quoi est-il encore démocratique aujourd'hui?
Ce qu'on ressent notamment en lisant votre livre, Myriam Leroy, c'est le sentiment de solitude de la personne harcelée. Les amis ou les collègues et même le compagnon de la victime ne comprennent pas, ne prennent pas les mesures des faits. Il faut s'en foutre, disent-ils.
C'est la réponse automatique de la société, des institutions, puisque les institutions sont complètement démunies par rapport à ça. Il faut s'en foutre. Il suffit de ne pas aller voir. Il suffit de ne pas fréquenter Internet. Comme si on pouvait aujourd'hui décemment se passer d'Internet. Enfin, la pandémie mondiale qui nous occupe depuis 2 ans nous montre bien que c'est complètement hors sol de croire que quiconque sur cette planète a encore le luxe de pouvoir se passer d'Internet. Donc oui, et c'est encore évidemment toujours à la victime à laquelle on donne des directives, quoi. Et la plupart des campagnes de prévention ne s'adressent pas, enfin, je n'en connais aucune qui s'adresse aux harceleurs ou aux harceleurs potentiels, par exemple. C'est toujours des guides de bonne pratique adressés aux victimes potentielles, des manières de restreindre leur liberté. Avoir une opinion politique, par exemple, pour une femme, c'est l'équivalent d'avoir une mini-jupe dans une ruelle sombre tard le soir, quoi. Donc oui, les injonctions que la société fait aux victimes sont complètement délirantes, en fait. Surtout aujourd'hui, Internet est dans nos vies depuis combien de temps? Une trentaine d'années, des choses comme ça, peut-être un peu moins. Mais on ne sait toujours pas comment dealer avec cette réalité.
Vous avez vous-même porté plainte contre votre harceleur. Où en est la procédure aujourd'hui?
Alors moi, ça n'a pas abouti parce que Twitter n'a pas collaboré avec la justice. C'est quelque chose qu'on relève dans le documentaire. En fait, c'est le rôle des plateformes. On parle du fait que la police, la justice, voilà, aucune institution en fait, ne sait comment répondre à ce problème. On parle de la réaction de l'entourage, mais en fait, le rôle des plateformes est évidemment très, très important là-dedans, parce que les plateformes n'ont absolument aucun intérêt à ne plus être des déversoirs à horreur, parce que ce sont des contenus qui génèrent énormément d'interactions, qui font passer du temps, et leur modèle, c'est que les gens restent le plus longtemps sur les plateformes. Et donc, en fait, la haine fait vraiment partie de leur business model. Et donc, voilà, on l'a vu dans mon cas, moi, j'ai porté plainte. En fait, on porte plainte contre X, mais je n'ai jamais pu remonter à l'identité de la personne parce que Twitter a refusé de collaborer avec la justice. Heureusement pour Myriam, c'est un peu plus positif.
C'est un peu plus positif, mais c'est parce que, pour moi, le harcèlement n'a pas pris uniquement place sur le terrain numérique, il a aussi eu lieu dans l'espace physique, parce qu'en Belgique, on a une loi tellement vétuste par rapport à ce type de problématique que toute personne qui commet des insultes par écrit et en public est considérée comme un journaliste et bénéficie de la même protection que les journalistes en Belgique. Et les journalistes sont très, très bien protégés en Belgique, ce qui fait que, de facto, ils ne sont pas poursuivis. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'il y ait en plus des interventions dans l'espace présentiel. Quoi. Et en tout cas, un jugement en première instance est attendu le 21 décembre et ça fait 5 ans que j'attends.
Alors vous l'avez dit, hein, vous avez quitté toutes les deux les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Est-ce que finalement, ce n'est pas la victoire de ceux qui vous ont harcelé, le fait que vous ayez quitté ces réseaux sociaux ?
Alors est-ce que c'est une victoire des harceleurs, des agresseurs ? Oui, sans doute. Mais en fait, la seule personne qui compte là-dedans, c'est nous. Enfin, je veux dire, j'aurais pu rester et continuer à parler, continuer à me faire insulter tout le temps et passer mon temps à manger des Xanax et à perdre kilo après kilo. Mais on ne peut défendre aucune cause si on est mort ou si on n'est pas en état de le faire. Donc oui, d'une certaine manière, ils ont gagné. Mais si je restais assistée à ma propre mort, en fait, j'aurais été la seule perdante.
Alors, au travers de votre documentaire, on comprend bien que le harcèlement est une forme de violence basée sur le genre. Est-ce que l'appel qui est lancé pour adopter une nouvelle norme internationale pour mieux définir ces crimes, est-ce qu'on va dans la bonne voie ?
Je pense que les choses sont doucement en train d'évoluer. Au-delà des changements qui ont trait à la technologie et à la manière de légiférer autour de la technologie, en fait, le vrai problème, c'est la misogynie. Et on pourra faire toutes les lois qu'on veut. Tant que les gens sont misogynes, ils diront des choses misogynes. La même chose pour le racisme et pour l'antisémitisme. Alors, on peut le punir, mais le vrai souci n'est pas seulement de punir les gens qui disent des choses illégales, c'est que les gens se rendent compte que c'est illégal, c'est que les gens réalisent que les petites blagues pourries, sur les femmes qui passent sous le bureau, sur les femmes qui ne savent pas conduire. En fait, tout ça participe à un climat de haine qui permet de se répandre en propos misogynes, entre autres via les réseaux sociaux, mais pas seulement, sans que ça soit condamné par la société, en fait. Je veux dire, les gens qui nous harcèlent sur Internet, la plupart ne passent pas pour d'horribles misogynes, hein. Ils passent pour des gens qui se réclament de la liberté d'expression et du droit de critiquer. Donc, tant que la misogynie n'est pas une honte impossible à assumer socialement, on ne réglera rien du tout, même avec toutes les lois sur le numérique du monde, quoi.
Alors justement, que faut-il faire concrètement maintenant ? Dans le documentaire, vous dites que quand on regarde ce documentaire, on ne peut plus faire semblant de ne pas être au courant. Est-ce qu'il faut un grand mouvement MeToo contre le cyberharcèlement ? Une des intervenantes disait dans le documentaire qu'elle ne laissait plus rien passer. C'est ça qu'il faut faire, c'est ne plus rien laisser passer contre les violences et le cyberharcèlement.
Ce qui est très important, c'est d'apprendre aux femmes, et pas seulement aux femmes d'ailleurs, à identifier ce que c'est un discours de haine, à identifier ce que c'est un discours misogyne. Parce que nous-mêmes, on a mis 10 ans, Florence et moi, à remarquer, à comprendre que sale pute, salope, dans des proportions qui étaient celles qu'on vivait, c'était misogyne. On s'est longtemps dit, parce que tout est fait dans la société pour qu'on passe à côté de ces agressions sans même les voir, ça fait tellement partie du paysage et du bruit de fond, tout est fait pour qu'on ne voit pas ce que c'est la misogynie. Et pour qu'on ne voit pas aussi l'invisibilisation des femmes dans l'espace public. Ça, c'est Lorraine Bastide qui le dit dans son livre Présente. L'invisibilité des femmes est invisible. D'ailleurs, est-ce que vous savez que 66% des utilisateurs de Twitter en Belgique et en France sont des hommes et seulement 35%, je crois encore moins en Belgique, sont des femmes. Donc ce sont des espaces qui sont carrément perdus, mais ça ne se voit pas et ça ne se dit pas. Donc il faut identifier les discours de haine, il faut identifier les mécanismes sexistes et il faut punir. Il faut sanctionner en tout cas, peut-être pas punir, mais sanctionner quand il y a des dépôts de plaintes. Pour harcèlement, 85% de ces plaintes sont classées sans suite en France. En Belgique, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose et en Suisse aussi. Ça veut dire que seulement 15% des plaintes suivent une instruction. C'est extrêmement peu. Je pense qu'il n'y a même pas, par rapport au cambriolage, par rapport au bruit de vitre, enfin, c'est ridiculement peu. Donc prendre au sérieux ce type de problématique, c'est déjà la première chose.
Et c'est avec Florence Hénaud et Myriam Leroy que se termine ce podcast Escale. Merci à Alexandre Carrette et à toute l'équipe d'ONU Info Genève. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau podcast de Nu Info.